Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 66. Conclusion, paysage d'une âme.
Au terme de cet entretien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons parlé de votre enfance, nous avons parlé de votre activité de professeur, de critique musicale, nous avons parlé de philosophie, de musique bien sûr, mais nous avons parlé aussi d'autres choses, quelque chose qui revient constamment dans votre langage, que ce soit pour parler de votre vie ou pour parler de musique d'ailleurs. Et cette autre chose se résume chez vous en un mot, qui est le mot paysage. Et ce mot paysage qui sert, qui revient aussi fréquemment dans ces entretiens, qu'il revient dans vos écrits, et pour vous, semble-t-il, et peut-être ne l'avez-vous pas réalisé jusqu'à maintenant, je pense que si, est pour vous un mot absolument clé, et peut-être le trait d'union entre votre vie et votre relation avec la musique. La question est peut-être un petit peu difficile, voire impudique, mais y a-t-il un paysage d'André Tuboeuf ? Quel est ce paysage d'André Tuboeuf ?
Je dois dire d'abord une chose, quand vous m'avez dit qu'il y avait un mot qui revenait souvent et qui probablement était porteur d'un assez grand sens et peut-être résumait quelque chose, je me suis demandé quel allait être ce mot. Et comme j'ai entendu paysage, je dois dire que j'ai senti un mouvement de surprise. Parce que si je réfléchis à ce que je fais et à la personne que je suis, peut-être que je m'apercevrai effectivement que paysage revient souvent et que paysage est un mot qui a une fonction en quelque sorte directrice dans une certaine façon, non pas de voir des choses, mais de mettre un lien entre quelque chose qui se voit ou bien qu'on doit rendre visible et autre chose qui ne se voit pas. Mais enfin, je ne m'attendais pas du tout à être surpris par là. Et c'est probablement très vrai, c'est probablement très vrai. Et j'imagine que par là même, il y a un paysage de moi-même auquel je me réfère constamment sans avoir besoin d'y revenir. Et enfin, dans un vocabulaire plus prétentieux et qui se prendrait davantage au sérieux, on dirait vision, façon de voir. Et si vous avez trouvé vous-même, en m'entendant ou en me lisant, paysage, et si moi-même je réagis si fortement, et je dirais presque émotionnellement à paysage, c'est que effectivement, ce sont des paysages, ce sont des vues, plutôt que des visions. Je veux dire, il n'y a rien d'intellectuel, il n'y a non plus rien d'abstrait, rien de mystique là-dedans, il n'y a pas une doctrine qui en résultera, une déclaration qu'on va faire. Il y a des vues qui se sont accumulées en moi, qui se sont superposées, comme il est de l'ordre des choses de le faire, qui ne se sont pas confondues les unes aux autres, qui sont restées distinctes d'après les différents états qu'elles me proposaient. Et à elles toutes, elles ont dû finir par venir me composer à moi quelque chose comme une, j'allais dire, non pas un paysage évidemment, mais peut-être une tonalité, c'est-à-dire dans l'ordre musical, dans l'ordre sonore, quelque chose qui n'est pas la même chose, mais qui correspond, bien entendu, qui correspond et qui peut-être exprime. Parce que, je veux dire, la musique, autant qu'on la compose, j'imagine, parce que je n'en ai jamais composé, mais en tant qu'on l'écoute et qu'elle nous fait quelque chose, c'est quelque chose qui fait sortir de nous une expression qui ne sortirait pas autrement, expression qui est nourrie de tout ce qu'on a été par ailleurs, de tout ce qu'on a vécu et connu par ailleurs. Et c'est vrai que si je récapitule mon enfance et ce qui m'a formé, ce sont des paysages. Je n'ai pas eu d'autres instructions, en vérité. Si on résume tout ce que nous nous sommes racontés ces derniers mois, on sait à la fois comme J'ai été bien instruit, bien éduqué, puisque je suis arrivé à quelque chose, enfin, et cela sans rupture, dans la continuité. Et comme en même temps, je n'ai pas du tout été instruit et éduqué comme il est naturel et convenable qu'on le fasse pour des petits-enfants. Mais j'ai eu mes départs, mes voyages, mes visions, mes ruptures, à chaque fois un autre paysage, une autre sonorité, une autre couleur de mer, une autre température ambiante, un climat dans lequel on est en général seul, parce que les circonstances en ont disposé ainsi, et que plutôt qu'un rapport à d'autres, on a un rapport à sa propre solitude et à la façon dont on se promène soi-même dans son propre paysage. Donc, à la longue, enfin, il a dû se constituer quelque chose qui est, enfin, vous dites, un paysage. Un paysage, c'est la même chose qu'une personnalité. Enfin, je veux dire, c'est l'individualité de quelque chose avec quoi on vit. C'est l'individualité de toute une constitution de la sensibilité dans les différents channels ou canaux par lesquels elle se manifeste et s'exprime. Et le paysage, mon Dieu, à l'intérieur d'un même paysage, il y a déjà deux paysages possibles. Je veux dire que le paysage qui me revient le plus fréquemment depuis que nous avons commencé ces entretiens, et peut-être parce que nous les avons commencés et que j'ai dû récapituler, revivre et entendre dedans, bien entendu, c'est l'enfance. Ce qui m'est revenu le plus, c'est l'enfance. Ce sont ces quelques années à Zonguldak où je me suis trouvé entre mes 5 ans et mes... combien, 9 ans et demi, enfin, quelque chose comme ça, je ne sais plus très exactement, mais enfin, c'est ces 5 pleines années de petite enfance, qui est encore une petite enfance, qui ouvre à peine les yeux. Mais alors, à la fois, c'est le paysage de l'enfance, à la fois, c'est le paysage en quelque sorte moral et abstrait de la solitude et de la singularité, ce qui musicalement apporte une différente tonalité, quoique en apparence l'image, celle qui serait déduite d'un paysage, elle n'a pas changé du tout. La tonalité change, le relief change, le rapport au monde change et le paysage en apparence est resté le même. Donc il y a ces années pendant lesquelles j'ai à la fois une vision de l'intériorité de moi-même et de l'extérieur, du monde extérieur qu'il y a autour. Et puis cela, une fois quitté Zonguldak, enfin, l'éveil a tellement de choses, je veux dire, cette sorte d'ensoleillement de ma première communion, cette sorte de premier travail dans l'école des sœurs, cette façon d'être prise en main comme si on était choisi, comme si on était aimé, qu'on soit soi-même, ce lys des chants que plus tard, moi-même, j'irai cueillir pour le porter dans la chapelle. Cette tendresse d'une approche qui est faite vers nous pour qu'on soit meilleur, pour qu'on apprenne quelque chose, et que je mettrai de bien longues années à espérer que je retrouverai, et que je ne retrouverai jamais. Enfin, ça, je l'ai eu une fois dans mon enfance, et pendant quelques mois, ou une dizaine de mois peut-être, et ça ne reviendra jamais plus, cette façon d'être chéri et choisi comme si on était un petit animal dans la basse-cour ou une fleur dans le jardin. Je revois cela, oui, très profondément, et c'est-à-dire qu'en même temps, c'est une sorte d'exil permanent, puisque c'est un autre pays, qu'on n'est pas chez soi, et qu'obscurément et même lumineusement, on finit par très bien voir qu'on n'est pas chez soi. Et en même temps, là, il y a cette insertion comme d'une fleur dans le jardin et comme d'un petit animal dans la basse-cour. Et pour moi, les années de Zonguldak sont effectivement cela. Paysage qui est enrichi en même temps par les récits, voilà. Qui sont tous des récits du temps passé, parce qu'il n'y avait pratiquement que de vieilles femmes, pas de vieil homme, pas de vieillard, uniquement des vieilles femmes. Ma grand-mère, la vieille dame chez qui ma grand-mère vivait, les vieilles grand-tantes, pas d'hommes, Cela viendra plus tard, il y en aura qui raconteront. Mais d'abord, ce paysage de vieille femme, attentive, bonne, qui aime raconter et qui aime qu'un enfant ouvre à la fois les yeux et les oreilles, enfin, et l'air d'en demander encore davantage par les yeux, comme si c'était du dessert ou de la nourriture principale. Donc le passé, et en même temps que ce présent, le passé, c'est-à-dire quelque chose qui a été, qu'on raconte encore, qui a une présence en quelque sorte musicale, parce qu'est-ce que c'est que ces récits, sinon des voix qui donnent à voir, c'est-à-dire pas vraiment du paysage et pas du tout de la littérature, mais des voix qui donnent à voir, c'est-à-dire une fois de plus, cette immixtion perpétuelle et nourricière qui fait que d'un ordre de sensibilité qui est de celui du voir, on passe à un autre qui est celui de l'entendre. Et ainsi se constitue peut-être petit à petit une oreille qui est en même temps une voix et qui est en même temps une vue. Bon. Et une vision, pourquoi ne pas dire vision, mais disons alors aussi paysage. Et il y a des ruptures dans ce paysage, des ruptures brutales. Le paysage de Smyrne retrouvé depuis la toute petite enfance, recouvrira de son soleil le paysage de Zonguldak, mais en même temps le colorera complètement d'un sens musical de rupture, d'amarre qui se tranche. Ce n'est plus l'insertion, c'est on est sur le départ. Il y a davantage de soleil, mais de façon beaucoup plus pressante, on va s'en aller. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir dans ce soleil quelque chose comme une mélancolie. Et je me rappelle dans ce dernier retour de Smyrne à Istanbul pour cette année scolaire que je vais commencer et que je n'ai pas finir, puisqu'on partira ensuite pour la Syrie. Je me rappelle ce petit matin sur Marmara à essayer d'entrevoir les minarets de Constantinople quand ils se détachent là dans une espèce de lumière dragée, impalpable. Et c'est quoi? C'est un bateau, c'est la mer de Marmara encore propre qui se déchire sous l'étrave, et on regarde l'écume dans une mer qui est encore bleue et verte à ce moment-là, et tout ce mélange de sensations, enfin, dans lequel l'oreille tendue vers la mer, l'œil tendu vers la vision possible des minarets, tout ça se mélange dans une sorte, qu'est-ce que je peux dire, d'âme attentive qui aime d'avance ce qu'elle va voir, mais qui sait aussi que ce qu'elle va voir n'est pas pour elle, et qu'il sera bon d'y avoir été attentif et d'en cueillir l'impression à temps, et faire en sorte que cette impression dure, parce que ce qui viendra demain, ça va être d'autres paysages pour la même personne qui va commencer à être itinérante. Alors, si on saute par là-dessus un grand nombre d'années, et moi-même, devenu alors beaucoup plus vieux et en âge, de me poser des questions sur comment ça s'est passé, comment ça a réussi à se passer quand même. Et que je me demande de quoi j'étais riche quand j'ai pris cet autre bateau et que j'ai traversé la Méditerranée dans un autre sens pour aller jusqu'à Marseille et puis de là jusqu'à Louis-le-Grand, et pour une existence complètement inconnue de moi et dans un monde enfin qui n'est pas un paysage, alors pour le coup qui est un lycée, des murs, un hiver froid, la solitude frileuse de quelqu'un qui n'est pas simplement frileux parce qu'il fait froid, mais parce que tout lui est hostile et difficile. Quelle a été la qualité qu'il y avait en moi et qui m'a permis de continuer à avoir chaud d'abord, ce que je pense que je n'ai jamais dit de cette manière. Mais enfin, d'une certaine manière, il a bien fallu que j'aie eu en moi quelque chose qui me permettait de continuer à avoir chaud dans cette frigorification et dans cette minéralisation totale, enfin à l'intérieur d'un lycée qui comporte des grilles, enfin des grillages. Et puis une espèce de richesse intérieure sur laquelle je me suis nourri pendant tout le temps où le latin qu'on me donnait, la littérature qu'on me donnait n'était pas encore comestible, enfin, que je ne savais pas encore quoi en faire. Je n'avais pas la possibilité d'assimiler, de digérer encore. Qu'est-ce que j'avais en moi qui m'a nourri ? Et là, bien entendu, comme je ne peux pas parler de vision, j'étais beaucoup trop gamin, je n'avais pas du tout unifié en moi par intelligence et par analyse et par volonté ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, cette espèce de grand état d'âme, vague, riche, compliqué, coloré, qui était le fond de ma petite personne. Il a fallu qu'il y ait ces paysages. Il a fallu qu'il y ait ces paysages et que le Liban, après la Turquie, la merveille du Liban, la merveille de l'adolescence au Liban, le soleil, je veux dire le bonheur simplement de s'ouvrir au soleil quand on a un corps avec tous ses pores qui demande à respirer et qui demande, je veux dire, à célébrer la nature qu'il y a là tout autour. Il a bien fallu que j'ai eu ça en moi. Et que j'ai eu ça en moi d'une façon vivante, parce que ce ne sont pas mes lectures, ce n'est pas ma méditation intellectuelle, ce n'est pas, supposons que j'ai été plus ardent et plus conscient, religieux que je n'étais réellement, ce n'est pas la prière ou la demande ou une façon de demander d'être digne, ce n'est rien de tout cela qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est cette chaleur que j'avais en moi et qui était nourrie de ce que j'avais vu, de ce que j'avais senti et que j'avais pris le temps d'engranger sans même savoir que je le faisais. Je veux dire par là que si je comprends la question telle qu'elle m'est posée, et s'il est vrai qu'après tout les paysages sont des états d'âme, c'est parfaitement légitime, et que à tout leur tour et en réciproque, les états d'âme sont parfaitement des paysages, à condition qu'ils ne perdent pas leur temps à essayer de se regarder et de se scruter dans le moindre détail, auquel cas ils ne sont plus des paysages, ni même des états d'âme, ils deviennent simplement des nombrils. Mais j'ai dû avoir en moi cette richesse, j'ai dû, étant encore tellement enfant, être déjà une mémoire. Être, en même temps que j'étais, à ce qu'on me disait, tellement doué pour ce que j'allais faire, et tellement petit et tellement enfant avec mes boucles dans le vent, avoir été quelqu'un qui regarde en arrière, qui en même temps qu'il regarde ce qui se présente à lui, regarde en arrière et d'où cela venait et par quel miracle ça a continué à exister et par quelle faveur il y a eu tellement de passés et de passés heureux et qui étaient vivants dans les choses présentes et vivantes et imagées qui m'étaient données à voir. Donc une arrière-culture sans livre, avec des vues simplement. Et des récits. Et une arrière-mémoire, je veux dire, qui n'est pas celle de l'individu que je suis, mais de quelque chose à quoi j'appartiens, d'une lignée, l'aboutissement de quelque chose dont les circonstances ont fait que ce n'est pas du tout du côté de mon père, et du côté de la Normandie, et du côté du Nord, et du côté du froid, et du côté du travail et de l'intelligence, et de l'ordre, mais du côté d'une sorte de fantaisie et de liberté qui, à sa manière, est aussi de l'ordre, il a bien montré. Et enfin, pour simplifier, relier directement jusqu'à Troie, jusqu'à l'Iliade et jusqu'à l'Odyssée, voilà. Et quand on voit des monuments qui surnagent, si je puis dire, et qui sortent encore du sol sous forme de colonnes un peu écroulées ou qui ont l'air de n'avoir jamais été finies, c'est quelque chose de plus ancien, de plus permanent qui revient. Alors, avec tout cela, il y a paysage en général, il y a probablement aussi vocation, c'est-à-dire vocation à nourrir tout ce qu'on fera de la mémoire, qui est sans doute le seul trésor qu'on soit seul, sûr d'emporter avec soi dans cette maison où on a un passé, où on a des racines, mais où on n'a pas de maison.
et où on n'a pas de domaine, et où on n'est pas chez soi, et où on peut, comment dirais-je, se faire la malle. Et on part, on n'a même pas la table des Juifs à emporter, la table des changeurs, on a simplement sa mémoire, et la mémoire est musique, c'est aussi simple que cela. Si on a de l'oreille, je veux dire, si on est avec en plus de l'oreille, il n'y a pas besoin d'aller apprendre le solfège, il n'y a même pas besoin que la mère mêlée, enfin, me pousse un petit peu plus loin que cela dans la culture des cantiques et dans la culture de la ferveur qui s'exprime par le chant. Il a suffi qu'on soit une oreille, qu'on soit en même temps une voix, une vue et une mémoire, et sans doute... Beaucoup de choses sont décidées étrangement pour un long acheminement. Si il y a eu pour moi une chance extraordinaire, c'est que ce viatique, qui ne vaudrait rien sur aucun marché, eh bien, c'est que ce viatique ait été de nature suffisante à me permettre de payer, je ne dis pas l'obol pour Caron, mais de m'acclimater à cette vie entièrement nouvelle, aux devoirs absolument nouveaux, aux vertus absolument nouvelles, dont je ne connaissais l'exemple nulle part, que personne là-bas ne m'a apprise, dont il a fallu simplement que je trouve là-bas tout seul, que je les possédais en moi-même à l'état virtuel, et qu'elles appartenaient aussi à mon oreille, à ma musique, et qu'un jour ma musique ce serait plutôt Jean-Sébastien Bach que ce ne serait les choses qui se chantent et qui font des barcaroles pour qu'on aille agréablement sur l'eau. L'Orient, les fils de la colombe, les fils d'une autre alliance. Ceux qui, sur les premiers plateaux, sauvés du déluge, là-bas loin dans l'Arménie, alors qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait plus rien sur la terre, que la colombe avec son rameau d'olivier, ce nouveau pacte, souviens-toi, alors que ta mémoire est vide, souviens-toi, n'oublie pas la leçon, n'oublie pas la lecture. Alors qu'en apparence, tu n'as rien lu. Et attends, tais-toi le temps qu'il faudra et décrypte des chiffres. C'est le message de l'Arménie, c'est le message de l'Anatolie. Je rêverai beaucoup sur tout cela plus tard dans les romans que j'essayerai d'écrire et que je ne réussirai pas tous à mener jusqu'au bout. Mais enfin, ce n'est pas un hasard si tout de suite, plus loin que le petit enfant grec, enfin voilà, sous les traits duquel j'aurais pu me représenter, voilà, simplement parce que c'est une expression qui est à la mode. Plus encore que cela, plus que l'enfant de Smyrne ou que l'enfant grec de Chios, je me suis aussi représenté comme l'enfant de l'Arménie, sauvé du déluge, sauvé également des Turcs, et qui survit parce qu'il y a entendu quelque chose et qu'il faut qu'il le rapporte. Pourquoi m'est venue cette espèce de tropisme extrêmement fort que je retrouverai dans au moins deux de mes romans, dont un vraiment, enfin, que j'ai publié, et c'est allé jusqu'au bout de cette histoire. C'est probablement que je m'étais nourri de la mer Noire et qu'en regardant la mer Noire, je n'avais pas simplement regardé la petite section Zonguldak-Istanbul que j'ai parcourue, mais la beaucoup plus longue section Zonguldak-Caucase que je n'ai pas parcourue, si ce n'est dans les livres, les histoires, je ne sais pas quoi, et que j'ai ressenti l'espèce de grande solidarité du sol, ce qui s'appelle au sens propre du terme un continent, c'est-à-dire quelque chose qui est de bout en bout, qui est solidaire, où les morceaux sont solidaires les uns des autres, et que là où je me sentais en liaison avec l'ouest de moi-même, en réalité quelque chose me portait encore beaucoup plus à l'est, là où les choses mythiques ont commencé, là là où les petits garçons ont commencé à être seuls de leur espèce, avec obligation de mémoire. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux donner comme paysage, mais il est assez compliqué et global pour qu'il y ait aussi tout un temps qu'il faudra pour le déchiffrer à son tour.
Moi, j'ajouterais quand même, André, que ce paysage-là, ces paysages et leur syncrétisme vous ont aussi rendu particulièrement sensible au paysage des autres. Et que le déchiffrement de vos paysages est passé par le déchiffrement du paysage des autres. J'étais très frappé, parfois, par la façon dont vous parlez des autres, non pas pour parler de leur psychologie, non pas pour parler de leur caractère, mais pour parler justement des paysages qu'ils ont eux-mêmes forgés. Ça a été aussi une des choses très particulières de votre approche littéraire, sensible, musicale, que de parler des paysages de Hans Rotter enfant, que de parler des paysages de Schwarzkopf, que de parler même des paysages de Brahms, ou de parler des paysages... Enfin, mais la réalité matérielle, physique, et la cristallisation et la transmutation de ces réalités matérielles et de ces mémoires, en fait, hein, dans la mémoire et dans l'art et dans l'expression, dans le chant, et si j'ose dire, et j'ajouterais même une touche plus personnelle, on n'a pas besoin d'être Brahms ou d'être Hans Rotter pour que vous soyez sensible au paysage de celui qui est en face de vous. Et que à la limite, vous en fassiez lecture à livre ouvert, alors même que ce paysage peut être recouvert par toutes sortes de conventions et de masques. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous caractérise, qui est fait de vous ce que vous êtes.
Mais il y a quelque chose de très profond et de très touchant et de très émouvant pour moi dans ce que vous venez de dire. Parce que j'ai eu un don, j'ai peut-être eu un don d'oreille pour ce que j'écoutais, mais j'ai eu aussi un don d'oreille pour ce que je voyais. C'est-à-dire pour ceux, C-E-U-X, pas des paysages, mais des visages. J'ai regardé les visages, avec amour. Les visages que j'ai eus le plus en face de moi, ce n'est pas les visages de gens que j'ai aimés, ou dont j'ai été l'ami, ou que j'ai cherché à connaître et à aimer. Ça a été les visages qui se donnaient à moi pour rien, parce qu'ils avaient à se donner, qui étaient ceux de mes interlocuteurs, de mes élèves en face de moi. Des visages qui étaient réduits à leurs yeux, d'une certaine manière, et dans lesquels il fallait lire. Et peut-être parce que, par une grâce surnaturelle, j'ai réussi à exercer ce métier avec un désintéressement absolu, c'est-à-dire sans chercher à me faire aimer pour moi-même, et sans chercher à conduire quelqu'un vers quelque chose qui n'était pas en lui, et qui n'était pas la chose vers laquelle lui devait aller vers cela et pas vers autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de connaître les gens dans leur vérité, afin de savoir ce que je pouvais leur donner, parce que je me trouve avoir eu un métier qui consiste simplement à donner quelque chose et à donner de la nourriture intellectuelle, mais de la nourriture qui soit soluble entièrement dans l'esprit et dans l'âme de la personne à qui on l'adresse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus, il faut qu'on ait un regard, si je puis dire, désintéressé, c'est-à-dire un regard à la fois rempli de passion, et pourtant désintéressé. Et cela oblige à tenir soi-même son propre regard d'une certaine manière. Et je ne suis pas du tout lecteur d'âme, pas du tout, je ne cherche pas du tout à l'être. Mais je vois à l'instant même le mensonge habituel par lequel les gens cherchent à cacher quelque chose qu'il y a en eux, en même temps qu'ils essayent de le dire. Et c'est pourquoi, enfin, je veux dire, c'est vrai même en musique, je veux dire, dans les yeux et dans le regard du vieux Brahms, pour autant que je le vois avec sa barbe fluviale, Je vois la douleur d'enfant qu'il y a encore chez lui. J'entends la douleur d'enfant qu'il y a chez lui au moment où il a cessé depuis longtemps d'être un enfant. Je la sens immédiatement chez Schubert. Immédiatement. Je la sens dans la voix d'une interprète. Je la sens dans le piano d'un pianiste. Et je peux me tromper, bien entendu. Mais dans la mesure où je ne cherche pas à voir une vérité, mais où simplement je suis sensible à une sensibilité. Car c'est cela, c'est une sensibilité qui est ouverte des deux côtés, c'est-à-dire qui est attentive à ce qu'elle va sentir et par conséquent va le sentir tel qu'elle se donne elle-même dans sa façon d'être sensible. Il faut donc ne pas être principalement attentif aux apparences des êtres, aux apparences qu'ils veulent se donner. Je ne veux pas dire qu'ils se promènent tous sous un masque, mais moi, je veux dire, nous nous promenons tous sous le visage que nous cherchons à donner, parce que nous ne sommes pas en train de nous avouer à chaque instant, nous ne sommes pas en train de nous promener tout nus à chaque instant. Nous avons notre vêtement, nous avons notre métier, nous avons des fonctions, nous avons toutes sortes de choses qui nous cachent plus qu'elles nous révèlent. Là-dessous, en plus, des mensonges, des distorsions, et qui ne sont pas graves, auxquelles chacun a droit, sauf celui qui, des yeux, est en train de demander la nourriture qui va lui être bonne. Celui-là, même s'il est légitime qu'il garde sa vérité pour lui, moi qui lui parle, j'ai besoin de l'avoir pour moi. Sinon, je ne pourrais pas lui parler. Vous me direz qu'il y a quelque chose de bien étrange à imaginer une chose pareille, alors qu'en vérité, c'est 40 personnes qu'on a en face de soi. Mais on a beau avoir 40 personnes en face de soi, et les yeux de ces 40 personnes, ce n'est jamais qu'une paire d'yeux qu'on est en train de voir. Je ne veux pas dire qu'une paire d'yeux qu'on regarde, car on les regarde tous quand même, on ne peut pas imaginer cette espèce de prédilection scandaleuse qui ferait qu'on passerait une année scolaire tout entière, les yeux fixés dans les yeux de quelqu'un d'autre. Non, on les regarde tous. On les regarde tous, mais c'est toujours des yeux qu'on regarde. Et leur vérité en général, qui est peut-être la même que celle que je portais en moi-même au fond sans le savoir, c'est-à-dire écoute, regarde, ne va pas trop vite. Regarde bien ce qu'il y a autour de toi, parce que peut-être tu ne le reverras pas. Tu as beau avoir 17 ans ou 18 ans, toi qui es en face de moi, les choses que tu as en face de toi périront peut-être demain sans que tu y sois pour quelque chose. Et il faudra que tu y survives et que pendant longtemps tu regrettes beaucoup de ne pas les avoir assez bien regardées. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir enseigné jamais autre chose que ça partout où j'ai eu à parler. C'est-à-dire des choses qu'on peut, sans se compromettre le moins du monde et sans prendre aucun vrai risque, dire à tous ceux qu'on a en face de soi, regarde bien ce que tu as autour de toi et sache bien que tu es périssable, mais que tu es éternel. néanmoins, et pour autant, tout cela, oui, je sais, c'est l'Orient. J'ai été baptisé à l'église de Saint-Polycarpe, c'est vrai. Il a dû m'en rester quelque chose. Polycarpe aux nombreux fruits, ça doit être un vieil arbre desséché et calciné après l'incendie de Smyrne.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.